Bonjour à tous. Merci Madame Marslow d'avoir fait appel à moi. Merci à Madame Loz aussi d'avoir parlé de moi. Moi, je suis une toute petite institutrice à côté de tout ce monde qui est venu parler.
Grande.
Non, non. je suis venue vous parler de ce dont Madame Derville a commencé à parler tout à l'heure, c'est l'étude de l'histoire des arts au cycle 3. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident au départ pour nos collègues d'entrer dans cette nouvelle matière. Moi, je suis une enseignante relativement jeune, il y a 10 ans que j'enseigne. J'ai un parcours assez polyvalent. J'ai été longtemps passionnée par l'apprentissage de la lecture au cycle 2. Et j'ai fait un petit passage en maternelle lors d'une mutation qui m'a rapprochée de chez moi, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, tant sur le langage que sur les troubles de l'apprentissage des jeunes enfants. Et j'ai souvent réglé les problèmes de langage en faisant une sorte d'initiation à l'histoire des arts avec les petits. Alors évidemment, on est loin de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui en maternelle, c'est évident, mais ça m'a donné un nouvel élan et un nouveau regard sur l'approche de l'histoire des arts à l'école élémentaire, enfin primaire, maternelle et élémentaire. Depuis que je suis directrice d'école, depuis 2 ans maintenant, je commençais à orienter mes recherches sur l'aide aux élèves en difficulté et je suis passée par l'histoire des arts dans un premier temps. Pour aider les élèves en difficulté, je parle des grands enfants de cycle 3. Hein, donc, comme disait Madame Derville, CE2, CM1, CM2. Mais en fait, notre métier d'instituteur n'est pas un métier comme celui des personnes que l'on a rencontrées tout à l'heure. C'est pas un métier où on est spécialiste dans quelque chose. Quand je dis que je me suis intéressée à l'aide aux élèves en difficulté, ça n'a pas été ma principale activité. On est polyvalent par essence. Quand en 2008, les programmes sur l'histoire des arts sont arrivés, je me suis donc penchée dessus et j'ai trouvé cela très intéressant pour faire avec des élèves. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire que je fasse un rappel sur les programmes de l'école élémentaire en histoire des arts. Est-ce que vous avez une idée des programmes en école élémentaire ? Comme le temps presse, je peux zapper cette partie-là si vous voulez. Allez. Peut-être sur l'histoire du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on aborde en Moyen-Âge quand même? Ça peut être intéressant. Les programmes de l'éducation nationale du cycle 3 proposent d'aborder plusieurs choses en Moyen-Âge. On doit étudier une architecture religieuse, des bâtiments, des sites militaires ou civils, un extrait de roman de chevalerie, un costume, un vitrail, une tapisserie, une musique religieuse, une musique profane, une fête et un spectacle de la culture populaire et nobiliaire. Donc là, c'est plutôt l'opposition entre carnaval ou théâtre et tournoi. Une fresque, une sculpture romane, une sculpture gothique et un manuscrit enluminé. Donc c'est tout un programme sur 3 ans. Honnêtement, il est difficile de tout faire sur les 3 ans. D'après les instructions officielles, l'histoire des arts s'inscrit dans l'étude de la culture humaniste, ce qui ouvre l'esprit des élèves. Mais ça, Madame Derville en a parlé tout à l'heure, ça doit inciter à ouvrir l'esprit des élèves. Et ça amène aux pratiques artistiques elles-mêmes en classe. Donc je passe aussi là-dessus, mais je pense que Madame Derville en a assez parlé. Je vais passer aussi sur la liste des compétences à acquérir à la fin de l'école élémentaire. La culture humaniste, c'est que l'école dispense aux élèves, leur donne des références communes. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, il faut que les élèves arrivent dans leur vie d'adulte, on ne parle même pas d'arriver au collège, avec l'idée qu'ils ont des références communes dans une culture commune, quelles que soient leurs origines. Et ce que l'on fait à l'école doit leur donner envie d'avoir une vie culturelle personnelle, d'aller au musée, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma. C'est pas forcément inculqué par les familles. Dans les familles un petit peu populaires, le rôle de l'école, il est là aussi. Je sais pas après au collège ou au lycée comment vous pouvez gérer ça, mais nous, je vois l'enthousiasme des enfants qu'on a un rôle très important à jouer là-dessus. La culture humaniste a aussi pour but de cultiver une attitude de curiosité des enfants, ce dont parlait Madame Derville tout à l'heure, et on va en effet évaluer leur attitude de curiosité. Et elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel une culture donnée ou en comparaison de culture. Dans ma classe, je suis une enseignante de classe de CE2, CM1 depuis 2 ans. Et j'ai des élèves de CM1 que je suis depuis l'année dernière. Donc le contexte est assez particulier. Ces élèves ont une histoire scolaire particulière. Depuis la maternelle, ils n'ont jamais gardé la même enseignante pendant une année scolaire entière. Entre les remplacements maternité, entre des maîtresses absentes, entre des maîtresses à mi-temps pour cause de jeune maman, ils ont eu un petit parcours chaotique. Enfin, comment dire ? Ils n'ont pas une attitude d'élève telle qu'on les imagine dans les livres de didactique. Et depuis l'année dernière, je bataille un petit peu et j'ai découvert qu'en rentrant dans les notions scolaires par des moyens détournés, je leur apprenais beaucoup plus de choses qu'en rentrant dans les notions par des moyens classiques. L'histoire des arts, là aussi, et c'est pour ça que je me suis intéressée pour aider les élèves en difficulté, l'histoire des arts m'a permis d'aborder énormément de choses. J'ai pu aborder divers thèmes, diverses disciplines, et j'ai pu leur apprendre un savoir-être d'élèves qui, normalement, devrait exister dès le CE2, on est bien d'accord, mais qui, là, n'existait pas chez ces enfants. Et c'est la deuxième année que j'ai ces enfants-là, et je peux vous dire que le savoir-être d'élèves commence à apparaître. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose pour eux. Dans ma classe de CE2 CM1, il y a aussi des CE2, qui, eux, sont une génération, c'est les hasards de la vie, hein, une génération d'élèves brillants quasiment au même niveau que les CM1, par leur parcours scolaire, bien sûr, ou par leur culture personnelle. Ils viennent tous de familles relativement aisées et relativement cultivées. Je sais qu'ils vont au cinéma régulièrement, au musée régulièrement, avec leurs parents. Donc, mélanger ces deux genres, c'est assez particulier. Au-delà de ces deux différences propres à ma classe, gérer un double niveau dans une classe, en collège, en lycée, on ne connaît pas forcément, on connaît l'hétérogénéité due à une classe, mais ce n'est pas un problème de gestion par rapport au programme. C'est très intéressant, mais c'est quand même, comment dire, assez sportif. Ça ressemble à un sprint à longueur de journée où il faut savoir mettre les élèves d'un niveau en autonomie face à une notion qu'ils connaissent déjà. Donc, il faut avoir travaillé la notion en amont, pendant qu'on s'occupe de donner des nouvelles notions à l'autre niveau. L'histoire des arts m'a permis de faire autrement sur ce thème-ci, en tout cas. Parce que le temps en classe est devenu tellement précieux que pour aborder l'histoire des arts, il fallait que je trouve un moyen de le faire correctement avec les deux niveaux. En revanche, il y a un petit problème vis-à-vis des programmes, c'est que le CE2 n'est pas censé aborder les notions de Moyen-Âge en tant que notion historique, pas en tant que notion histoire des arts. Mais sans avoir de notion historique, c'est un peu difficile d'aborder un art ou des arts. J'ai dû jongler avec ça, et j'ai essayé tant bien que mal, tout en faisant le programme de CE2, c'est-à-dire préhistoire et antiquité avec les CE2, d'inculquer quelques notions médiévales dans la classe. Je travaille sur le projet que je vais vous présenter depuis seulement septembre. Forcément, cette classe n'est à moi, entre guillemets, en dehors des CM1 que depuis septembre. Et le temps que Mme Marsloff me contacte l'année dernière, il était trop tard pour commencer à monter un projet. Donc je vais vous présenter un projet pas forcément terminé, ou en tout cas, s'il vous paraît terminé, qui dans ma tête n'est pas terminé, qu'il reste beaucoup de choses à faire dans ma classe d'ici la fin de l'année. Je suis partie du principe que j'allais entrer dans l'art médiéval par quelque chose que je connais bien, c'est-à-dire l'enluminure et les manuscrits. Enfin, je les connais moins bien que toi, Adeline, parce que j'ai quitté la fac il y a 15 ans. Donc, voilà, mais ça, c'est pas, enfin, on ne l'aborde pas de la même façon, puis les élèves sont plus jeunes. Tout d'abord, j'ai simplement donné des enluminures à observer et je voulais que les élèves, CE2 comme CM1, se rendre compte à quel point c'était beau. Parce que, quand même, quand on voit de l'art, on doit dire que c'est beau. Et l'objectif de mes séances était de leur proposer, après l'observation de ces œuvres d'art, de fabriquer ou de produire eux-mêmes une œuvre similaire, c'est-à-dire faire un livre, mais adapté à ce que l'on a de nos jours, c'est-à-dire faire un travail numérique, éditer un livre numérique. Tout d'abord, il a fallu qu'en histoire, je place un cadre assez rapide. Les représentations des élèves, et là, tu vas voir, c'est pire chez les petits, sur le Moyen-Âge, sont très, très variées. Une des élèves m'a dit, c'est la période des princes et des princesses. C'est très mignon. C'est mignon, c'est adorable. Mais enfin, quand un élève de 8-9 ans nous parle de princes et de princesses, malheureusement, on voit la Belle au bois dormant, on ne voit pas tristes en haiseux. Pour un autre, il s'agit d'une période grise. Alors, incapable de m'expliquer, je crois que c'est les murs qui sont gris, mais j'ai pas bien compris ce que l'enfant voulait dire. Il y a un autre élève, alors lui c'est un peu plus compliqué, c'est un malentendant. Parce que dans mon école, il y a une particularité que je peux vous décrire après, c'est que nous intégrons des élèves malentendants. Donc la communication est différente avec eux, tout simplement parce qu'ils ont moins de vocabulaire que nous. Enfin, leur lexique a moins de synonymie, c'est ça. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils ne parlent pas une langue complète, je veux dire que c'était plus difficile de communiquer avec eux sur ça. Donc ce petit garçon m'a parlé de chevalier et de dragon. Et là, je pense que c'est lié à le monde dans lequel ils vivent, les lectures qu'ils peuvent avoir. Il a dû lire des livres un petit peu d'ambiance médiévale. Et enfin, une petite élève de CE2, alors là, il faut s'imaginer, la petite fille très scolaire, m'a dit, je cite, parce que c'était vraiment impressionnant à 8 ans, « C'est une période où aucune découverte n'a été faite et où l'homme n'a fait aucun progrès. » Alors, on aurait dit un livre quand elle a dit ça, parce qu'à 8 ans, c'est quand même assez particulier d'avoir ce genre d'expression. Je pense que soit elle a répété quelque chose que ses parents lui ont appris, soit en CE1, l'approche de l'initiation à l'histoire a été assez négative sur la période médiévale. Bon, ils avaient tous une représentation préconçue, des idées reçues qu'il a fallu un petit peu briser. Sans vouloir trop dévaloriser les quelques connaissances qu'ils avaient, j'ai essayé de leur parler de la langue qui était pratiquée et parlée ou écrite au Moyen-Âge. J'ai essayé de leur parler des scribes, des moines. J'ai essayé de les mettre dans la situation d'un homme qui a froid, qui écrit au fond de sa cave ou qui peint au fond de sa cave. C'est négatif. Au fond de son monastère. Mais c'était pour leur donner l'idée qu'on n'était pas dans des conditions comme aujourd'hui avec le chauffage central comme en classe. J'ai essayé de leur donner des petites bases. Je ne pouvais pas faire de leçons d'histoire à cause des CE2. Et je ne pouvais pas non plus, en 3 séances avant de rentrer dans mon projet, parler de tout le programme d'histoire de CM1, un programme qui est vaste sur la période médiévale quand même. Donc j'attends pas des élèves, et je suppose que personne dans une école élémentaire attend des élèves qu'ils aient une idée précise du Moyen-Âge. Ça peut venir bien plus tard, mais il fallait leur donner une petite ambiance, une petite idée de l'ambiance. Comme je vous le disais, le programme de CE2 va à la préhistoire, à la chute de l'Empire romain. Donc pour mes élèves de CE2, c'était un peu lourd de leur ajouter autant de connaissances. Et quand ces CE2-là étaient en CE1, ils n'ont pas vraiment eu de leçons d'histoire à proprement parler. Ils ont eu une initiation, un éveil vers l'histoire. Hein. Ils font de la découverte du monde, donc ils font quelques leçons d'histoire, mais ce n'est pas avec de l'analyse de documents, ce n'est pas comme nous, on le fait plus tard. Je leur ai donc donné tout ce cadre approximatif. On est parti, à partir de là, sur des observations de manuscrits. Donc, j'ai raccourci un peu le PowerPoint que je leur ai donné, mais je voudrais quand même que vous en profitiez pour la beauté, et puis aussi parce que c'est bien de savoir ce que les enfants ont vu. Donc, je leur ai d'abord montré des animaux réels, c'est-à-dire des animaux qui existaient dans l'univers occidental, sans parler d'importation, de ménagerie, donc les animaux du quotidien de l'homme du Moyen-Âge, sauvage ou domestique. Donc un mouton. Celui-là m'a bien gêné à cause du problème de la laïcité à l'école, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et on est toujours un peu embêté hein, face à des œuvres. Alors après, je suis partie sur des choses moins religieuses. Je voulais leur montrer que l'image était intégrée au texte, bien sûr, parce que montrer que ça, ça aurait pu être un tableau, bien sûr. Je voulais leur montrer que les représentations pouvaient vouloir être réalistes, même si pour nous, hommes du XXIe siècle, il y avait quelques erreurs sur les proportions. Et je voulais leur montrer aussi la couleur, les représentations d'animaux plus ou moins exotiques. Donc, regardez les détails sur les éléphants. Là, par exemple, bon, tout le monde reconnaît un éléphant. Ici, on n'est pas arrivé avec les enfants à dire si c'était un éléphant, un phacochère, un tapir. C'est assez difficile parce que les oreilles sont petites. Si les oreilles étaient grandes, il n'y aurait aucun doute. Mais une trompe et des petites oreilles, c'était un peu difficile de dire ce que c'était. Et bien sûr, on a Alors, je voulais parler du lion. Je ne sais pas pourquoi je leur ai mis ça là, parce que c'est plus tard que je voulais en parler. Je voulais parler de la vie quotidienne, avec le cochon, les animaux de la ferme, l'âne. Ici, il n'y a pas d'animaux, mais je voulais leur montrer l'ambiance de l'organisation dans la vie quotidienne des hommes du Moyen-Âge. La chasse encore, avec les tableaux des riches sœurs. Oui. Encore la chasse, excusez-moi, hein, mais c'est des scènes où on voit beaucoup d'animaux et je voulais parler des animaux avec les enfants. En gros, la chasse et la ferme, hein, ce sont des thèmes récurrents. Voilà. Et des animaux imaginaires. Donc, tout à l'heure, il y a eu une erreur avec le lion, puisque vous le verrez maintenant, le lion et le dragon, vous les verrez ici. Ensuite, il y a des représentations d'animaux dans des mondes imaginaires, pas forcément, dans des représentations qui ne nous parlent pas, dans le sens où j'ai montré aux élèves des images qui expliquent le monde aux contemporains médiévaux, avec la faune symbolique et la faune réelle. Donc ça, c'est l'Inde, d'après les hommes du Moyen-Âge. Ça, je ne me rappelle plus. C'est les îles Fortunées, peut-être. Tu te rappelles, Valérie? Non, hein. Et je voulais leur montrer, j'ai terminé comme ça mon diapo avec les enfants, ce qu'on pouvait en faire aujourd'hui, et c'est très intéressant, parce que nous avons une représentation de Lancelot, avec ici, je ne sais pas si vous voyez bien, un basilic. Donc un basilic, c'est un animal imaginé au Moyen-Âge, on en voit des représentations régulièrement. Expliquer aux enfants, donc ça c'est un livre pour les enfants de 7-8 ans, ça s'appelle « Les petites poules ». Dans chacun des petites poules, il y a un clin d'œil à l'histoire ou l'histoire des arts. Donc là, on nous dit, le basilic est engendré dans un œuf pondu par un coq et couvé par un crapaud. Vous comprendrez pourquoi j'ai voulu montrer ça à mes élèves. Après avoir observé toutes ces images, les enfants ont pu un peu comprendre les représentations différentes des animaux qui pouvaient avoir lieu au Moyen-Âge, que ce soit animaux réels, c'est-à-dire ceux du quotidien, ou les exotiques, ou ceux qui étaient imaginés, fantasmés dans l'imaginaire médiéval. On a pu aussi, vous l'avez vu, observer le quotidien des hommes du Moyen-Âge et observer la beauté des manuscrits. On a longuement, mais vraiment longuement, discuté sur la vraisemblance des animaux observés. Les enfants avaient envie de me dire, enfin non, m'ont dit à plusieurs reprises, c'est mal fait. Oui, un éléphant avec des pattes fines, un éléphant sans grandes oreilles, pour les enfants, c'est mal fait. Du coup, je suis partie de leurs remarques pour leur présenter un nouveau document, si vous voulez jouer au jeu de mes élèves, sur la comparaison d'animaux. Je leur ai montré ça en leur demandant ce que c'est. Alors, si quelqu'un veut répondre... Bon, je vous montre un autre morceau. Et maintenant, je vais vous le montrer en entier. Aucun de vous, bien sûr, ne s'attendait à voir un éléphant. Et le découpage des images, là, est très intéressant parce qu'il va briser nos idées reçues. On a l'impression d'avoir des pattes de chien. On voit quand même un sabot fondu comme un chameau. Là. Mais bon, loin d'être avec ce dos, cet arrière qui ressemble ou à celui d'un chameau. Non, le chameau, là, on voit bien que ce n'en est plus un, il n'y a pas de bosse. Donc là, on était plutôt parti sur un chien avec les enfants. Évidemment, découvrir un éléphant, voilà. On est parti aussi là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Alors, beaucoup m'ont dit un cochon, ils ont reconnu les poils. Et là, ils étaient vraiment sûrs qu'on avait le cochon, mais vous l'avez vu tout à l'heure, en fait. Voilà. Ici, pareil, qu'est-ce que c'est? Ah, petit bug, pardon. Là, ils ont tous pensé au cheval. Et bien sûr, arrivé en entier, on a encore un éléphant. Et bon, celui-ci était peut-être plus évident dès la deuxième image parce qu'on voyait les grandes oreilles. Et j'ai terminé avec ça. Qu'est-ce que c'est? Vous allez tous me dire un crocodile. Je vous montre la tête. Vous ne pensez plus au crocodile. Je vous montre la queue, vous pensez encore moins au crocodile. Et pourtant, je suis à peu près persuadée qu'il s'agissait d'un crocodile. Donc là, cette fois-ci, la première impression était réelle, était la bonne. Alors, c'est là où je ne vais pas dans ton sens, mais parce que pour moi, ce n'étaient pas les hommes du Moyen-Âge qui voyageaient pas, c'était les scribes ou les moines et ceux qui peignaient. Ceux qui ont fait les illustrations n'avaient pas forcément vu les animaux pour de vrai. Moi, je vais vous parler comme aux enfants. C'était plutôt l'idée que soit ils en avaient vu des représentations déjà et ils recopiaient une image, soit ils avaient lu ou écouté des récits de voyage. C'est donc pour ça qu'on est loin du réalisme. Et pour mettre les élèves, je vous avais dit que je leur avais parlé d'avoir froid au fond de son abbaye pour recopier. J'ai pas pu mettre en place cette situation, mais pour les mettre dans la situation du scribe, je leur ai proposé une dictée de dessin. J'ai voulu leur faire dessiner un animal qui n'existe pas. Tout simplement parce que si je leur avais dit « dessine-moi un lion », ils avaient tous des images préconçues grâce à la télé et Internet. Donc j'ai choisi, grâce au site Internet de la BNF, de construire un animal. Alors là, c'est une partie à voir absolument. Mais c'est pour ça que je vous ai mis le lien et Madame Marsloff vous le transmettra. Un site à voir absolument. Ils peuvent fabriquer un animal. On peut fabriquer un animal grâce à un dossier pédagogique. Fenêtre. Attendez, j'ai fait une copie d'écran normalement de la fenêtre. Voilà. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir le tête, le corps, les pattes, le cou, la queue, les ailes. Et cliquer sur n'importe quel animal et construire un animal en mélangeant les genres. Donc, très chouette. J'ai construit un animal. Je ne l'ai pas montré aux enfants et je leur ai fait une dictée. L'animal devait avoir une tête de lion, un corps de cerf, des pattes de pigeon, des ailes de dragon, une queue d'éléphant. J'étais à peu près sûre que j'aurais pas du tout le même résultat d'un enfant à l'autre. Donc on a le temps, je peux leur montrer un petit quart d'heure peut-être encore. Donc voici les productions des élèves. Dans un livre d'Ida Page, monsieur, j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc, on va être obligé de regarder rapidement. Excusez la qualité, mais ils ont travaillé au crayon gris. Et une fois scanné, ce n'est pas forcément un rendu formidable. D'autant que j'avais donné des feuilles à 5, c'était peut-être pas une idée très bonne. Mais bon, vous voyez tous quand même qu'aucun dessin ne se ressemble. Mais on reste sur l'idée qu'il y a une crinière, que les ailes sont plus ou moins travaillées. Hein, bon, Hugo, c'est particulier. Hugo, il dessine vraiment très très bien. Les pattes de pigeon sont toutes là, avec la représentation qu'on en a de toutes les pattes des volatiles. La queue d'éléphant, c'est plus délicat. Mes élèves n'ont pas dû observer de près les queues d'éléphant. Mais bon, regardez, Lina est pas loin de représenter correctement. Ceux qui ont vu Dumbo ont fait des belles queues d'éléphant, je pense. Donc, alors, Néline, c'est assez particulier. C'est une petite fille comorienne qui est arrivée en France le 20 septembre et qui ne comprend pas un mot de français. Donc, en fait, elle a copié sur son voisin. Je vous montrerai, on n'a pas dû le passer. Ah si, c'était Dylan, donc on l'a déjà passé. Mais bon, dans l'absolu, les enfants ont tous respecté le contrat avec la crinière, la queue d'éléphant. Voici donc l'image que j'avais utilisé, fabriqué grâce au site de la BNF. Ils ont bien tous compris que ça ne pouvait pas ressembler au modèle si on nous le dictait ou si on nous le racontait, quoi. C'était forcément à chacun avec sa petite griffe personnelle. Après cette dictée, on est parti donc sur mon projet initial, mon but initial, mais ils étaient bien partis sur l'idée qu'on allait faire notre livre numérique. Donc là, on sort un peu de l'histoire des arts pour entrer dans la pratique des arts. Mais comme Madame Derville l'a dit tout à l'heure, il y a un lien, il y a des passerelles qui doivent être faites d'une matière à l'autre. On allait donc faire un bestiaire. On a travaillé sur les animaux à partir de ces enluminures. Et ce projet allait demander aux élèves, je m'en suis très vite rendu compte, d'acquérir des notions, mais qui vont au-delà, bien au-delà des compétences de l'histoire des arts ou de la pratique des arts. Parce qu'il fallait, bien sûr, des compétences en technique de pratique des arts, mais aussi des compétences en sciences pour faire la carte d'identité des animaux. Il faut avoir pratiqué des exploitations de documents d'animaux pour pouvoir en faire soi-même. Il allait falloir avoir des compétences en production d'écrit pour la rédaction des caractéristiques de la description. Et il fallait bien sûr avoir des compétences en informatique pour réaliser le livre numérique. Donc en partant sur ce projet, je sors du sentier battu de l'histoire des arts pour elle-même, je suis partie sur un projet qui va bien au-delà des 20 heures d'histoire des arts dans l'année, mais qui regroupe tellement de matières que je pense que je peux me permettre de dépasser mes 20 heures sans problème. Donc une fois que les élèves avaient réfléchi autour de la dictée, nous avons commencé à préparer des esquisses d'animaux fantastiques. Donc je leur ai donné, comme pour moi, la consigne de dessiner des animaux qui n'existaient pas. Tout d'abord parce que je ne voulais pas qu'ils restent sur des sentiers battus classiques. Ensuite, à terme, mais ça ils ne le savent pas encore, vous avez la primauté, ils feront eux-mêmes une dictée à leurs camarades. Donc, même problème que pour moi, s'ils veulent dicter aux camarades leur production, vaut mieux partir sur des animaux qui n'existent pas. Après avoir dessiné ces animaux, ils ont rédigé des cartes d'identité, donc je vous parlais tout à l'heure de la nécessité en science d'en avoir pratiqué. Et pendant, lors de la rédaction de ces cartes d'identité, tous les élèves ont réinvesti, tous les élèves ont réinvesti tous les savoirs qui avaient été acquis en sciences les semaines précédentes, c'est-à-dire que en CE2, j'avais travaillé sur les comparaisons d'animaux, quels sont les points communs, quelles sont les différences, et on avait fait des cartes d'identité partant de là, animaux qui volent, animaux qui marchent, animaux qui nagent, enfin toutes les notions de sciences de CE2 qui peuvent servir plus tard à l'élaboration d'un bestiaire. En CM1, par contre, j'avais travaillé sur la notion d'animaux ovipares et d'animaux vivipares, avec la grande idée de comment les animaux font-ils des petits. En CM1, on n'aborde pas la reproduction humaine. Plus tard, donc, je vous l'ai dit, les élèves rédigeront une description très précise de leur animal afin de remettre en place une dictée de dessin. Je vous montre les premiers résultats. C'est le moment M de ma classe, c'est-à-dire que là, on n'a pas avancé plus. Je me suis permis de mettre moi-même en page le livre. Ils ne le savent pas, ils le feront eux-mêmes plus tard, mais je voulais vous montrer quelque chose d'à peu près achevé. Vous remarquerez que les élèves ont beaucoup aimé la dictée de dessin avec des animaux mélangés. Donc la plupart des élèves ont eux aussi mélangé des animaux. Donc l'espace du livre sera celui-ci pour tous les élèves, hein. C'est un livre collectif. C'est-à-dire... un espace pour l'image, un espace pour le prénom, parce que quand même, le dessin est leur propriété, et ça, c'est quand même très important. Et en dessous, un espace, alors l'image grandira ou pas selon la taille de leur rédaction, un espace pour la carte d'identité qui, là, n'est pas rédigée à proprement parler. Ce sera une liste, ce sera sous forme de liste, nom, comment fait-il des petits, où vit-il, que mange-t-il, hein, grosso modo. Donc, rapidement, voici les productions des élèves, avec des élèves plus lents, mais ça, c'est la réalité de la classe, qui n'ont pas eu le temps de mettre des couleurs encore. Néline, encore cette petite fille qui ne parle pas français, vous verrez qu'elle a fait exactement le même animal que la petite qui s'appelle Lorenza. On verra son image après, mais elle est dans l'imitation, c'est vraiment normal avec la barrière de la langue. Marvin, c'est le petit garçon qui voit des chevaliers et des dragons au Moyen-Âge. Donc, il est complètement dans l'ambiance. Il a bien compris ce que j'attendais de lui. Il faut savoir que Marvin est un élève malentendant et que toutes les consignes ont été données avec la langue des signes. Donc, ce n'est pas évident pour la personne qui vient traduire. Après, bon, vous voyez plus ou moins le dessin de Lorenza sur lequel Néline a copié. Vous voyez plus ou moins l'évolution de la maturité de l'enfant par rapport au dessin. Hein. Lou, par exemple, elle a un peu mélangé les animaux, mais elle a une culture médiévale assez bien présente. Hein. Elle a conscience de la licorne alors qu'on n'en avait pas encore parlé. Les ailes du dragon, c'est pas mal. Donc, il y en a quelques-uns, plus que d'autres, qui ont une culture médiévale. Je vais peut-être trop vite, je ne sais pas. La scène, c'est aussi un enfant malentendant et il a aussi un problème dans la représentation du corps. Vous voyez les pattes attachées à la tête. La scène, il a l'âge d'être en CE1. Il est un peu plus jeune que les autres, mais il vient dans ma classe pour ce projet. En cas, ils n'ont plus à pas terminer. Mais dans l'ensemble, quand même, les élèves ont aimé faire ce travail et ont joué le jeu. Bon, ça, j'ai pas compris ce que ça faisait là, mais bon, voilà. Je peux pas refuser un dessin sous prétexte que je ne comprends pas d'où il vient. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu présenter tout ça sous forme numérique? Parce que Madame Derville en parlait tout à l'heure, on n'est pas censé partir sur un cahier, ou bien quand il s'agit de production plastique, on est censé faire ça sur du papier, du beau canson, pour afficher dans les couloirs de l'école. Bon, tout d'abord, les IO sont friandes des TICE. c'est quand même quelque chose que l'on doit de plus en plus mettre en place dans les classes. Ensuite, il fallait une trace écrite, et je pars du principe que la forme numérique permet plusieurs choses. Je vous passe peut-être le passage sur les IO, sur la trace écrite, le fait que l'élève doit garder en mémoire, dans un cahier personnel, tout ce qu'il fait en histoire des arts. D'ailleurs, les IO, dès la troisième ligne, hein, rentrent sur l'idée qu'il faut partir sur les TICE. Pour moi, faire du numérique, ça me permettait de valider, tout d'abord, hein, tout bêtement, les compétences du B2I qui doivent être validées au cours des 5 ans de la scolarité d'un élève en école primaire. Ensuite, ça me permettait d'avoir constamment, et c'est très important, un outil propre, utilisable sur plusieurs années. Ça vous intéressera, monsieur. Je transmettrai au professeur de collège un outil propre qui ne disparaît pas et qui peut réapparaître s'il est perdu. Cela offre aux élèves et aux familles une possibilité de communication. Et Dieu sait ce que les enfants aiment montrer, ce qui est beau à leurs parents. Quand ils rentrent de l'école, en élémentaire plus qu'en maternelle, ils aiment dire « Regarde, maman, ce que j'ai fait » et le partager. Et de mon point de vue, là, ça revient sur mon idée du travail sur les élèves en difficulté, ça permet de donner à l'élève une impression, une forte estime de lui-même. Et quand on a des élèves en difficulté, avoir confiance en soi, c'est la moindre des choses de ce qu'on peut offrir aux élèves. Et enfin, ça, c'est le côté scolaire. Ça lui permet de travailler à la maison, comme à l'école, avec sa clé USB. C'est un peu sadique de ma part, quand même. Qu'est-ce que cela permet ? Dans le cadre de ce projet, l'outil numérique me permet de faire un recueil collectif d'œuvres plastiques. Et ça va me permettre de le partager une fois terminé, autant à l'école qu'à la maison. À l'école par le biais de vidéoprojecteurs, hein, si on voulait le montrer aux autres classes. À la maison, parce que quand on fait des œuvres plastiques en général, les parents ne reçoivent pas le recueil du travail, ils ne reçoivent que la page de l'enfant. Or là, c'est quand même une œuvre collective, même si pour le moment ce sont que des dessins individuels. À terme, c'est le travail de la classe quand même qui doit être présenté. L'outil numérique me permet aussi de réaliser le cahier personnel d'histoire des arts. C'est-à-dire qu'en dehors de cet outil collectif, je pourrais faire un cahier personnel dans lequel l'élève peut consigner tout un tas de choses, des textes qu'il aura écrits, des textes qu'il aura recopiés, des images qu'il aura glanées sur Internet, des images qu'il aura dessinées lui-même et scannées. Enfin, tout un tas de choses qu'on peut copier-coller sur du vrai papier. Mais en général, quand on fait des recherches sur Internet, on n'a pas l'imprimante en couleur à côté, on n'a pas du matériel qui permet d'avoir un rendu vraiment propre, alors qu'en faisant un copier-coller sur la petite recherche sur un site de musée, on peut offrir à l'élève la possibilité d'avoir un réel répertoire de choses rencontrées dans sa scolarité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils pourront partager avec leur famille les productions et les recherches qu'ils auront faites. D'autre part, j'ai ouvert cette année un site pour l'école. Alors pour le moment, il n'y a que ma classe qui le complète, mais petit à petit, il va être de plus en plus étoffé, qui permettra de communiquer de l'école à la maison, de la maison à l'école, pour montrer au jour le jour les évolutions du travail, autant aux familles que finalement aux personnes extérieures. Si vous-même voulez aller voir le résultat à la fin de l'année de mes recherches, vous pouvez très bien aller sur le site de l'école du Pont de l'Arc à Aix-en-Provence. Mais pareil, je peux mettre l'adresse internet dans le PowerPoint. En conclusion, je vous parlais d'un métier polyvalent en introduction. Et je pense que là, vous avez vu toute la polyvalence qui ressort d'une seule matière. C'est-à-dire, on ne fait pas que de l'histoire des arts quand on fait l'histoire des arts à l'école. On fait à peu près de tout. Peut-être pas des maths, quoique j'ai trouvé des choses qui pouvaient nous montrer qu'on pouvait faire aussi des maths en histoire des arts. Beaucoup d'enseignants avec lesquels j'ai parlé ne pratiquent pas trop l'histoire des arts en classe. Enfin, en tout cas, en école élémentaire. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. On me dit, on manque de temps. Mais quand moi je vois tout ce que j'arrive à aborder, je ne fais pas que de l'histoire des arts finalement. Et je ne manque pas de temps parce qu'en français, quand je prépare la description, ça prépare aussi ma séance d'histoire des arts. Donc je pense que en mettant en valeur l'idée qu'en travaillant l'histoire des arts, on aide à travailler les autres disciplines, on arrivera un petit peu à un peu mieux inciter les enseignants à aborder l'histoire des arts à l'école. Et enfin, pour moi, faire de l'histoire des arts en classe me permet d'aborder une notion essentielle à l'école, et c'est Madame Derville en parlait aussi, c'est travailler au quotidien la maîtrise de la langue et le langage. Et quand on décrit une œuvre, on travaille sa syntaxe. Et quand on écrit un texte qui va décrire notre œuvre, on travaille sa syntaxe écrite. Et c'est très important pour moi d'aider les élèves à acquérir un progrès en langue grâce à autre chose que faire la grammaire autour d'un texte sans sens. Je vous remercie.